RFI.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et je suis toujours en compagnie de Bruno Parmentier, ingénieur des mines et économiste, qui après une carrière dans la presse et l'édition a rejoint le milieu agricole en prenant la direction du groupe ESA, autrement dit l'École supérieure d'agriculture d'Angers en Pays de Loire, et qui a publié en 2007 un ouvrage intitulé « Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle » préfacé par Edgar Pisani. Cet essai est édité à La Découverte, et à ses côtés Michel Fouché, géographe, directeur de l'Observatoire européen de géopolitique et membre du Conseil des affaires étrangères, à mes côtés donc cette semaine dans les studios de France Bleu Auxerre en Bourgogne pour faire écho à l'édition 2007 des entretiens d'Auxerre qui viennent d'interroger les réalités de l'alimentation. Je dis les réalités car se nourrir est au carrefour de larges questions de culture, d'injustice sociale et d'appel à la solidarité et à des politiques efficaces. Plus de 850 millions d'individus dans le monde souffrent de la faim. Combien seront-ils en 2050, lorsque la population mondiale aura atteint peut-être 9 milliards, comme le projettent les démographes? Notre planète aura-t-elle assez de ressources pour nous tous nous alimenter? Quelle agriculture faudra-t-il inventer pour répondre au double défi de nourrir toutes les bouches et de préserver l'environnement? À l'heure de la flambée des prix des denrées alimentaires, des émeutes de la faim et de la crise financière, ces questions ne peuvent plus être ignorés, des éléments de réponse donc avec mes invités Michel Fouché et Bruno Parmentier. Bruno Parmentier, vous vouliez, je crois, avant la pause, répondre à Michel Fouché, ou disons commenter sa réponse.
Compléter, parce que je suis en désaccord. Je pense qu'il y a biocarburant et biocarburant. L'idée folle consistant à dire on va brûler des grains de céréales dans nos moteurs est une idée folle. C'est le meilleur du meilleur de la nature, le grain de blé, le grain de maïs ou le grain du colza ou le grain du soja. On en a absolument besoin pour se nourrir. Et évidemment, la productivité de cette affaire est absolument déplorable. Parce que dans le maïs, il y a le grain, mais il y a tout le reste. Donc, le problème des biocarburants, c'est d'abord passer à ce qu'on appelle la deuxième génération des biocarburants. Et d'ailleurs, dans les grands pays qui produisent des biocarburants, pour le moment, le Brésil, c'est carrément différent des États-Unis. Les États-Unis, ils prennent du grain de maïs, le Brésil, il prend toute la plante, toute la canne. Donc, le problème, c'est de trouver de la matière végétale entière, et pas seulement la graine, c'est du carbone, cette matière végétale, à partir duquel on puisse faire de l'énergie. Et le deuxième problème, c'est de cultiver les biocarburants ailleurs que dans nos champs. Parce qu'en fait, on ne cultive que 12% de la planète. Il y a 13 milliards d'hectares immergés sur la planète, on n'en cultive qu'un milliard et demi, 12%. Parce que les superficies trop chaudes, trop froides, montagneuses, trop arides, ou bien dans les villes, etc., etc., sont beaucoup plus importantes que les superficies disponibles pour l'agriculture. Mais dans ces 88% de planète dans lequel on produit pas justement le blé, le mil, le riz, il y a quand même des possibilités de fixer du carbone par photosynthèse. Donc il faut absolument réserver les biocarburants à ce qu'on appelle de la deuxième génération, prendre toute la plante, et deuxièmement, ailleurs que dans nos champs. Voilà. Parce que le seul endroit pour le moment où il y a un lien direct entre les biocarburants et la faim, c'est les relations entre les États-Unis et le Mexique. Le Mexique, grosso modo, abandonne son agriculture aux mains des États-Unis en ouvrant ses frontières. Il récupère des emplois industriels, mais comme son agriculture est nettement moins productive, maintenant, il mange des produits produits aux États-Unis. Et les États-Unis disent « je perds la guerre d'Irak, il me faut du substitut au pétrole, je suis un très gros producteur de maïs, au lieu de vendre mon maïs, je vais le brûler dans mon moteur ». Et donc concrètement, la première émeute de la faim, elle est à Mexico début 2007, où le prix de l'aliment de base, qui est la tortilla de maïs, augmente de 50% en un mois. Donc là oui, à ma connaissance, personne n'a eu plus faim en Afrique, pour le moment, à cause des biocarburants. Mais il faut se dire, c'est très dangereux. Si on consacre une part très importante de nos céréales à faire rouler nos voitures, oui, ça peut devenir un crime.
Michel Fouché, lors de ces entretiens d'Auxerre, vous avez signé une contribution intitulée « Une nouvelle géopolitique de la faim ». Alors, je voudrais que vous explicitiez l'adjectif « nouvelle », parce qu'en vous écoutant, je me souvenais du livre de José de Castro, qui était géographe et médecin dans le nord du Brésil, manipulé plus ou moins, enfin plutôt plus que moins par les doctrinaires américains, qui au début des années 50, je crois, quand Truman annonce le lancement de campagnes pour lutter contre la faim, va écrire, à la demande de l'ambassadeur des États-Unis, « Géopolitique de la faim ». Alors ce livre va être traduit par les États-Unis en 40 langues, on n'y parle pas de communisme, mais naïvement, pour les États-Unis, il fallait lutter contre la faim pour que le communisme ne se développe pas. Et cette campagne contre le sous-développement a eu un contre-coup. Certaines personnes en Amérique latine, à Paris, ont dit que la famine, c'est l'impérialisme ou le capitalisme. Alors donc, il était question de géopolitique de la faim et vous parlez de nouvelle géopolitique.
Oui, mais ça, c'est lié à la demande des organisateurs scientifiques des entretiens d'Auxerre. Lorsque ils m'ont invité de nouveau à y participer, et n'étant pas un spécialiste comme Bruno Parmentier des questions agronomiques, agricoles et alimentaires, ce sujet m'a immédiatement fait penser à cet ouvrage, qui en effet a été traduit dans beaucoup de langues, et a peut-être été un élément de propagande, mais enfin, quand je l'ai découvert, il m'a intéressé d'abord parce que c'est le premier ouvrage en français publié après la Seconde Guerre mondiale qui comprend dans son titre le mot géopolitique, et que deuxièmement, sa thèse était que la question, ce qu'on appelait la faim à l'époque, c'est un médecin du nord-est du Brésil, donc dans une région où en effet il y a souvent des phénomènes de pénurie alimentaire, enfin depuis très longtemps même, son approche est que c'est d'abord une question politique. Vous êtes un peu sévère dans la présentation que vous faites de José de Castro, parce qu'en 1964 il a été exilé, et il a été privé de tous ses droits civiques, il est venu se réfugier en France et il est mort en 73 déprimé. Il a été privé de droits civiques, si vous voulez. Donc, je crois qu'il avait mis l'accent sur quelque chose de fondamental. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est à la suite de la lecture de ce livre que j'ai fait mes premières études de terrain dans le nord-est du Brésil. C'est-à-dire que j'ai voulu aller voir. J'ai voulu aller voir ce qu'il en était, et mon premier mémoire de maîtrise de géographie, je m'excuse de cette notion personnelle, mais c'est la raison du titre, a été précisément dans l'état de Paraíba, dans le Sertão, le fameux Sertão. Et José de Castro, sa conclusion ne plaisait pas du tout aux Américains, c'était qu'il fallait faire une réforme agraire. Et il a dénoncé l'absence de réforme agraire, c'est pour ça qu'il a été exilé. Et donc, je me suis interrogé pour savoir si, aujourd'hui, il y avait, au fond, des conséquences ou des facteurs d'ordre politique localisé, donc géopolitique, qui pouvaient contribuer à expliquer cette situation extrêmement critique depuis plusieurs années. En fait, c'est une situation structurellement critique que l'on a découverte, je dirais, ou redécouverte avec la hausse des prix et surtout les émeutes de la faim, y compris dans des pays de régime démocratique. C'est ça ce qui est intéressant, et en commençant par le Mexique, mais aussi toute une série de pays d'Afrique francophone qui bénéficiaient depuis très longtemps d'énormes programmes de développement. Donc on se demande où l'aide au développement va, puisque je crois savoir que moins de 4% de l'aide publique au développement va directement au soutien au milieu agricole. Donc voilà la raison, si vous voulez, de cette interrogation traitée aux entretiens d'Auxerre.
Michel Fouché, il y a un véritable problème géopolitique, mais évidemment, après, je pose en même temps la question à Bruno Parmentier, parce que on va rejoindre les deux aspects de vos travaux. Il y a un véritable problème géopolitique, c'est tout de même, quand on parle de l'alimentation, c'est le problème de l'eau.
Oui, mais alors, si vous parlez avec le président Wade, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui, au Sénégal, a justement essayé d'inciter à un programme de remise en valeur des casiers rizicoles du Sénégal, là aussi, il y a eu d'énormes programmes dans le passé, tout ça a été abandonné. C'est repris, si vous lisez ce qu'écrit Jacques Diouf, le directeur de la FAO, Jacques Diouf dit, il n'y a pas de problème d'eau en Afrique. Il y a des réserves, simplement, il faut organiser une meilleure répartition de ces ressources.
Il n'y aura pas une guerre de l'eau.
C'est quelque chose qui est très à la mode. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Il y a eu des tensions sur l'eau au Proche-Orient. Et ça a contribué, et ça reste un problème permanent dans le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, israélo-libanais, etc., etc. Le problème des sources du Jourdain, du Litani. Mais c'est des questions qui sont strictement indépendantes des problèmes alimentaires. Puisque l'eau au Proche-Orient est consommée dans les villes essentiellement et qu'il y a des progrès dans l'hydraulique, dans l'agriculture irriguée. Mais je crois qu'on a besoin d'investissements. La ressource est là, simplement, il faut réinvestir ce secteur. Je ne sais pas, je ne suis pas encore convaincu que ces crises récentes vont modifier les politiques de développement. Je n'en suis pas sûr.
Oui, Bruno Parmentier.
Je veux bien intervenir sur l'eau. D'abord, il faut se rendre compte que l'eau, c'est très important pour l'agriculture, parce que les plantes ne peuvent pas pousser sans transpirer. En fait, pour que la sève monte dans la plante, il faut que la plante transpire. Elle n'a pas de moteur. Donc la plante, c'est un organisme d'abord à transpirer. Et pour les auditeurs, il y a quand même un chiffre qui est un peu stupéfiant. Pour produire un kilo de céréales, il faut une tonne d'eau. Voilà. Donc, 70% de l'eau douce de la planète est consacrée de fait à l'agriculture. Alors, la planète est riche en eau. Le problème, c'est que 97% de l'eau de la planète est salée. On ne sait pas, aujourd'hui, on saura peut-être un jour, on ne sait pas faire pousser des plantes avec de l'eau salée. Il reste 3%. L'autre problème, c'est que les deux tiers de l'eau douce est gelée. Alors, on s'emploie à résoudre le problème, tous les glaciers fondent, mais enfin, prévoir un petit délai. Donc, en fait, ce dont on parle, la vraie eau douce disponible, ni salée ni gelée, c'est 1% de l'eau de la planète. Elle est très mal répartie. En fait, 60% de cette eau est dans 10 pays, et il y a 80 pays qui en soif. Alors maintenant, le phénomène se dégrade, parce que la planète se réchauffe, et on pourrait dire... finalement, c'est bien, la planète se réchauffe. Comme elle se réchauffe, il y a plus d'évaporation. Comme il y aura plus d'eau dans les nuages, il y aura plus de pluie. C'est vrai. Mais en fait, le système se dégrade pour l'agriculture. Parce qu'au lieu d'avoir un peu de pluie pour tout le monde, en fait, les sécheresses augmentent beaucoup dans certains endroits, le Sahel, par exemple, etc. Et les inondations et les cyclones augmentent beaucoup dans d'autres. Donc, on va avoir à faire face simultanément à une augmentation des zones arides et une augmentation des zones inondées. Donc, c'est très compliqué. Alors, par rapport à ça, on a fait un énorme effort au XXe siècle. Vous vous souvenez, j'ai dit, on cultive 1,5 milliard d'hectares. Sur ce 1,5 milliard d'hectares, un champ sur 7 est irrigué. Il y a à peu près 200 millions d'hectares irrigués. On a fait un énorme effort pour creuser des puits, faire des barrages, etc. Bien, on a mangé notre pain blanc, si j'ose dire. Ça va être beaucoup plus compliqué au XXIe siècle. Le niveau des nappes phréatiques dans de très nombreuses régions baisse de façon extrêmement préoccupante. Et quand je dis de très nombreuses régions, regardez toute l'Afrique du Nord. Par exemple, toute l'irrigation... Mais en Libye, en Jordanie, etc. Mais c'est de l'eau d'il y a 6000 ans. Il ne pleut plus jamais. Mais aussi, par exemple, aux États-Unis. Regardez, tous les gens qui ont vu des westerns se rappellent qu'il ne pleut jamais dans un western. Bien, comment est-ce qu'on a fait du maïs dans cet endroit-là? C'est qu'il y a une gigantesque nappe phréatique qui s'appelle l'Ogallala. Il y a 200 000 puits. Elle a baissé de moitié. Nous allons arriver au bout de la production d'un certain nombre de nappes phréatiques. Et aussi... au bout de l'eau dans de très nombreuses rivières du monde l'été, parce que l'eau dans les rivières du monde l'été, c'est beaucoup la fonte des glaciers. Les glaciers, par exemple tous ceux de l'Himalaya, qui nourrissent les 9 grands fleuves de l'Asie l'été, ce qui a permis de faire une agriculture irriguée dans de très nombreux pays d'Asie, sont en train de grimper. Voilà, à la fin des fins, on sait comment ça finit. Il n'y a plus d'eau. Donc on va avoir un énorme problème d'eau pour l'agriculture dans de très nombreuses régions de la planète.
Alors Bruno Parmentier, dans un instant, je vous demanderai évidemment si les armes traditionnelles de l'agriculture, parce que je vois bien le sens de votre discours, suffiront à relever les défis de demain, vous nous le direz. Mais je voudrais encore poser en priorité à Michel Fouché, mais vous aurez peut-être quelque chose à dire là-dessus, un mot sur ce qu'on appelle effectivement les famines et puis la géopolitique, parce que en 2008, la nourriture reste bel et bien une arme stratégique. Les famines ont une utilité politique, elles sont instrumentalisées très souvent, il y a les famines créées, bref, comment faire la part des choses pour le citoyen lambda sans l'attendrir, pour qu'il réfléchisse vraiment ?
Je crois qu'en effet, il faut essayer au cas par cas hein, de qualifier les situations. On ne peut pas interpréter chaque pénurie alimentaire comme une tentative de tel ou tel gouvernement de répliquer ce que Staline a provoqué en Ukraine dans les années 30. Moi, je me souviens de débats sur l'Éthiopie qui, sous prétexte que c'était un régime autoritaire, au fond, toute tentative de colonisation de basse terre à partir du plateau éthiopien qui sont plus humides, etc., était systématiquement rejeté, si vous voulez, comme si on n'avait pas le droit de faire de l'aménagement du territoire. Donc tout ça, c'est dynamique. Alors il faut regarder cas par cas. Alors c'est vrai que dans le cas, par exemple, de l'ouest, du centre-ouest du Soudan, là, il y a une combinaison de conflits quasiment de guerre civile, très complexe, entre le pouvoir central et les populations du Darfour, mais aussi entre différents mouvements de dissidence. Et là, les populations réfugiées, pour des raisons politiques et pour des raisons de dégradation des milieux naturels qui se combinent à l'insécurité politique, sont des populations extrêmement vulnérables. Et incontestablement, le pouvoir central de Khartoum porte une responsabilité directe dans cette situation de crise alimentaire, hein, qui est le résultat d'actions qu'il entreprend pour contrôler cette région. Donc là, on a un cas extrêmement avéré, si vous voulez. En Somalie, il faut regarder selon la zone où ça se passe, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples, pour l'instant en tout cas à ma connaissance, de situations de quasi-famine qui seraient directement instrumentalisées par un pouvoir central.
Alors Bruno Parmentier, cette émission touche à sa fin. J'en viens à la question que j'évoquais à l'instant. Vous avez écrit un livre notamment pour y répondre. Est-ce que les armes traditionnelles de l'agriculture vont suffire à relever les défis de demain ?
Alors j'ai le regret de dire que non. Voilà. Du point de vue technique, on est au bout de ce qu'a pu produire ce qu'on a appelé la révolution verte. Ça a quand même été une invention très décriée, mais géniale. Hein. En France, on est passé de, grosso modo, 25 quintaux à l'hectare à 80 quintaux à l'hectare en l'espace de 40 ans. On sort trois fois plus de nourriture du même champ.
Maintenant, vous dites qu'il faut une révolution doublement verte.
Voilà. Cette agriculture très intensive, elle est très consommatrice de planète. Voilà. On arrive au bout des ressources de la planète, c'est la première à le ressentir. Donc, il va falloir remplacer par des phénomènes biologiques ce qu'on sous-traitait avant, à la chimie et à l'énergie. Voilà. Il va falloir maintenant faire par les animaux et les plantes ce qu'on faisait faire de façon artificielle. Par exemple, il est urgent de passer un accord mondial avec les vers de terre et les abeilles. On se rend pas compte que les vers de terre, c'est bien plus efficace qu'une charrue pour améliorer une terre. Et finalement, des choses aussi évidentes que le labour, qui était probablement un des symboles du modernisme, voilà. Eh ben, on va laisser faire le labour par les vers de terre et cultiver les vers de terre. Mais on va associer des plantes dans le même champ. On va se dire, il faut que les plantes arrivent à se protéger entre elles et se nourrir entre elles. Il faut sauvegarder les abeilles. On a perdu 25% des abeilles. S'il n'y a plus de pollinisation, la moitié des plantes s'arrête. On n'a plus les moyens de gâcher un rayon du soleil qui arrive sur de la terre nue. Tout rayon du soleil qui arrive sur un endroit où peut pousser une plante doit fixer du carbone par photosynthèse. C'est une véritable révolution technologique. Et puis l'autre révolution, c'est la révolution de l'organisation. On avait dit, il est urgent d'ouvrir les frontières et d'arrêter de soutenir les agricultures vivrières. Et bien c'est exactement le contraire. Il va falloir fermer les frontières et soutenir toutes les agricultures du monde. Si c'est pas une révolution, ça y ressemble.
Eh bien, Bruno Parmentier, Michel Fouché, merci. Merci d'être venu dans les studios de France Bleu Auxerre, dont je remercie au passage toute l'équipe, pour faire écho aux entretiens d'Auxerre 2008, des entretiens organisés par le Cercle Condorcet, la Ligue de l'enseignement de Lyon, et dirigé par un comité scientifique placé sous la direction de Michel Vievorka, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Alors, si vous souhaitez bien sûr de plus amples renseignements, vous pouvez toujours nous écrire. Je vous rappelle l'adresse de l'émission, id@rfi.fr. Ce numéro d'ID a été mis en onde par Frédéric Gastine. Bonne semaine à tous.